Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 27 septembre 2018. Ça passe vite le temps, n'est-ce pas? Et au micro, Monique Roac, en compagnie de Marie Lalonde.
Bonjour.
Bonjour Marie, et de Francis Marin.
Bonjour, bonjour.
Chers collaborateurs, de quel sujet allez-vous nous parler aujourd'hui? Ben, en fait, en première partie, Marie?
Moi, je vous présente un billet qui est écrit par une enseignante et elle s'adresse dans son billet à un de ses élèves qui ne veut pas écrire.
Oui, c'est fort touchant d'ailleurs. Oui. Et Francis, de votre côté?
Alors moi, je vais parler du casse-tête des métaux critiques et des propositions d'amélioration de l'environnement qui ne fonctionnent pas.
Ça, c'est un article?
C'est le bilan de deux articles.
C'est le bilan de deux articles, d'accord. Et ben, de mon côté, je vous parlerai de femmes vikings. Seraient-elles guerrières?
Bonne question.
On verra donc. Et c'est parti! Alors Marie, un témoignage d'une enseignante, en fait un texte d'une enseignante pardon, qui parle à un étudiant.
Parle à un de ses élèves. Alors Catherine Lapointe, elle est enseignante au primaire, au petit. Elle enseigne donc la lecture et l'écriture et elle écrit aussi. Donc elle a écrit ce texte dans un blog qui s'appelle les ateliers d'écriture et de lecture au primaire. Elle a écrit ça en fin de semaine. En fait, elle a publié ça en fin de semaine, puis c'est un texte qui m'a vraiment accrochée. C'est pour ça que je me suis dit, faut que je lise ça. Vraiment, faut que je lise ça. Alors, je vous lis ça.
Oui.
Tu as crié que tu ne voulais pas écrire. Tu as marché la classe comme dans une prison. On va tourner notre micro de bord. Ça va aller mieux. Allô? Bonjour. Alors, voilà, je recommence. Tu as crié que tu ne voulais pas écrire. Tu as marché la classe comme dans une prison. Tu cherchais à t'échapper. Je suis restée calme. En tout cas, de l'extérieur, rien ne paraissait. Cool as a cucumber, que je me répétais, en imaginant Égide Royer, qui est une sommité en éducation.
Oui, oui, on l'entend souvent parler d'ailleurs ces derniers temps.
En imaginant Égide Royer, habillé en coach de yoga, les deux doigts en forme de peace. J'ai presque senti l'encens et entendu les bols tibétains. Mais tu m'as ramené, en hurlant... « Chicane-moi! Allez! Chicane-moi, là! » J'ai simplement dit que je voulais t'aider. Je ne veux pas d'aide. Mais ça sonnait faux. Comme quand on répond machinalement « oui » à quelqu'un qui demande « ça va? » quand ça va tout croche. Je t'ai laissé le temps. Le temps de circuler à travers la classe. Les petits auteurs à l'ouvrage, la langue sortie ou les yeux au plafond. J'aime ces moments. Chacun pensait son texte. J'aidais parfois à trouver une idée et j'envoyais quelques encouragements juste pour rassurer. Étire le mot, fais confiance. Oui, c'est ça. Je le savais que tu y arriverais. Oh, tu as mis le mot succulent en majuscule. C'est une amplification bien utilisée. Bravo! Parce qu'écrire, c'est entrer à l'intérieur de soi. Dans ce qu'il y a de plus intime, c'est frôler qui on est vraiment. C'est pas tout le monde qui est prêt à ça ou près de ça. Mais toi, pendant ce temps, tu rageais. Tu nous fais travailler pendant que toi, tu t'amuses. Ben, au moins, j'ai l'air d'avoir du fun, on dirait. J'ai pas juste l'air, mon coco, j'ai du plaisir. Sinon, je ferais autre chose. J'y crois à mon rôle. J'ai encore des rêves pour l'école, plein. Et pour chacun de mes élèves. Pour toi aussi. Si tu penses que je vais t'abandonner, tu te trompes. Pourquoi tu me chicanes pas? Envoie, chicane-moi! Tu me testes. Je ne sais pas si j'aurai passé le test à la fin de la période, mais je sais que j'ai des rêves pour toi. Ton crayon que t'as lancé, c'est ton arme la plus puissante. T'aimes ça, toi, les armées, les combats? J'ai un rêve pour toi. À un moment donné, je souhaite que tu aimes écrire parce que tu vas comprendre que c'est puissant, un crayon. Ça peut te sauver, mon petit gars, parce que je le sais que tu as des choses à dire, plein. Bon, pour le moment, c'est tout à l'envers dans ta tête. Tu as l'impression d'avoir rien à raconter. Je te comprends. Je me sens comme ça, des fois aussi. Mais quand tu me parles, je te jure que je t'écoute. Je les écoute, tes histoires fantastiques et tes trucs de jeux vidéo. Je comprends pas tout. Faut que tu m'expliques bien les affaires. Tu deviens le prof à un moment et moi l'élève. T'aimes ça, je pense bien. Avec ton crayon, un jour, quand tu seras prêt, tu pourras faire la même affaire, nous parler. T'auras même le droit de crier sur le papier si tu veux. Et puis, je te jure qu'on va t'écouter. Ça peut être en slam, en rap, en éditorial, en brouillon, en pyjama, en français, en inuktitut. Je vais te laisser, je vais te lire. En attendant, j'ai planté un drapeau blanc. J'attends que tu viennes à moi. Je pensais que ça prendrait plus de temps. Le lendemain, tu m'as dit, quand est-ce qu'on l'écrit? Avec un ton différent. Pas le ton quand est-ce qu'on l'écrit? J'ai pas hâte. Plutôt, quand est-ce qu'on l'écrit? J'ai hâte de m'asseoir avec toi pour que tu m'écoutes. Ensemble, on va l'écrire côte à côte, cette histoire-là. Nos crayons en forme de croix, comme deux épées après un combat. Sauf que moi, j'aurais toujours été dans ton équipe sans que tu t'en aperçoives. Allez, prends ton crayon, mon petit homme, et taille-le. J'ai hâte de lire chaque mot, chaque phrase, parce que je sais tout le courage du combattant que ça t'aura demandé. Prête-moi ton taille-crayon, je vais t'aider. Voilà, je te remets ton crayon épée. Il a rapetissé pendant que toi, tu as grandi à chaque mot que tu as écrit. C'est peut-être le début de la victoire. En tout cas, c'est le début de ton histoire. Alors voilà, moi je félicite Catherine Lapointe, qui est enseignante chez les tout-petits au premier cycle et qui a écrit ce texte-là qu'on peut trouver sur le blog Les ateliers d'écriture et de lecture aux primaires.
Merci Marie, c'est vraiment extraordinaire. On voit la motivation incroyable de cette enseignante et ça nous fait du bien.
C'est rafraîchissant.
Tout à fait, alors qu'on critique tellement ces enseignants courageux. Alors, de votre côté, Francis, vous nous parlez des terres rares. Je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que c'est que des terres rares.
Ah, c'est vraiment compliqué.
Ah oui? Alors, vous allez nous raconter ça.
Je ne suis pas sûr que j'ai compris encore. L'article est d'Azhar Kalabari.
Oui.
Il est tiré de Science et Avenir, numéro du juillet 2018. Ça s'intitule « Le casse-tête des terres rares ». Donc, ces métaux aux propriétés exceptionnelles sont indispensables à toute industrie du numérique et aux technologies dites vertes.
Ah, voilà!
Mais le coût environnemental de leur extraction pourrait compromettre la transition énergétique en cours. Alors donc, la nouvelle, on parle d'une nouvelle qui est arrivée sur le plancher de la bourse. Un gisement de 16 millions de tonnes de terres rares a été découvert à 6000 mètres de profondeur, c'est un peu creux. Au large de l'île de Minamitori, à 2000 km au sud-est de Tokyo. Ça va.
Mm-hmm.
Selon les scientifiques japonais qui l'ont annoncé, c'est une manne. De quoi satisfaire la demande intérieure en terres rares pour 780 ans au Japon. Et quand on connaît la consommation que font les Japonais avec l'électronique, c'est très important. En quelques décennies, ces métaux, dotés de propriétés thermiques et magnétiques exceptionnelles, sont en effet devenus indispensables à toute l'industrie du numérique, en particulier à celle des téléphones portables et à toutes les autres technologies qui sont consacrées à l'efficacité énergétique, ce qu'ils appellent les « green tech ». Donc, porté par une demande en très forte expansion, le prix de ces terres rares a bondi depuis janvier 2017. Or, le problème est suivant. L'obtention de chaque pincée nécessite des méthodes longues à mettre en œuvre et polluantes que, jusqu'à ce jour, seule la Chine avait accepté d'engager, au mépris des conséquences environnementales et sociales pour la santé des travailleurs, entre autres. Au point qu'en continuant ce rythme, cette poignée de métaux menacerait la transition énergétique, clé de voûte de cette société sans carbone, vers laquelle les pays ont décidé de s'engager, après la signature de l'accord de Paris en 2016.
Donc, ça sert aux énergies vertes, mais c'est très polluant.
Voilà.
C'est paradoxal. Oui.
Exactement. Donc, conséquemment, on calcule que la croissance de ces métaux-là, les besoins vont s'établir à 270% d'ici 2030. Donc, il faut en faire de plus en plus. Il faut 200 mètres cubes d'eau pour purifier chaque tonne de minerai. Et l'eau, cette eau-là, se charge en acides et en métaux lourds qu'il faut ensuite retraiter.
Ah, oh mon Dieu, quelle horreur!
Absolument, les coûts sont faramineux. Plusieurs rapports concluent qu'en raison de ces batteries contenant un cocktail de métaux critiques, la fabrication d'une voiture électrique ou hybride, je vous en parlais tantôt, nécessite 3 à 4 fois plus d'énergie qu'une voiture conventionnelle.
Ah bon?
Oui, ça veut dire que le virage au vert...
ça coûte cher.
Tourne au brun.
Ah, c'est comme le t-shirt de Maurice.
Taupe,
ouais, d'accord.
Par exemple, dans une voiture moderne et propre, qu'on dit, verte, on se rend compte, et là je vais vous donner des noms que vous n'avez jamais entendus, moi non plus d'ailleurs, avant d'en prendre connaissance, c'est des métaux rares. Alors, dans le polissage des vitres et des miroirs, il y a du cérium. Dans les écrans à cristaux liquides, il y a de l'europium, du latane, du terbium. Le moteur et générateur électrolytique électrolyte hybride demandent du néodyme, du praséodyme, du dysprorium, terborium.
Oh, etc., etc.
Etc., ça n'arrête pas.
Donc, c'est tous des mots en ium.
Voilà.
C'est ce qu'on comprend.
Oui. Et l'idée, c'est que ces métaux-là sont rares et demandent des processus d'extraction absolument lourds en termes de coûts, mais lourds aussi en termes environnementaux, parce que pour extraire ces métaux-là, on utilise des acides qui sont difficiles à neutraliser par la suite. Et surtout, les coûts de récupération sont encore plus élevés que les coûts de production. En conséquence, seulement de 1 à 3% des métaux sont récupérés.
Aïe,
donc,
aïe.
On produit. Alors, tout ça pour dire que, pour verdir l'environnement, ça ne s'annonce pas joli.
Non, on a du travail à faire.
Ben, je pense que le travail principal à faire, c'est de diminuer nos besoins. Donc, pas de chercher des voitures, transport de troupes, 4 roues motrices et tutti quanti, et autant que possible 2 ou 3 par famille, mais plutôt marcher, prendre le vélo, prendre les transports.
Mais ça, c'était pas dans l'article.
Non, ça, c'était
c'est
mon point
la partie
éditoriale.
c'est ça. Alors, c'était un article de.
C'est un article de c'est un article de
de Science et Avenir.
Oui, d'Azar Calatabri, dans Science et Avenir de juillet dernier.
Merci beaucoup.
Prends des vacances en ambulance. J'ai besoin de soins à l'urgence. Car comme une bête, je faisais la fête. Et je me suis cassé la tête. Oh, un homme m'entend ce que c'est des hanches. Je dansais la danse, la négligence. Et la débauche m'a rendu gauche. Yo, FL. Même ma tête éclatée sans parachute.
Damien Robitaille, Casse-tête.
Merci Maurice. Il faut dire que Maurice a des nouveaux écouteurs qui nous impressionnent beaucoup. Ils sont vraiment merveilleux et lumineux, Maurice. Alors, c'est donc à mon tour de vous lire un article de Bernadette Arnault pour la revue Science et Avenir de juillet 2018. Article qui s'intitule « Le guerrier viking était, trois points de suspension, une guerrière ». Alors, de l'Université de Uppsala, il y a une chercheure archéologue qui s'amuse encore du bon tour que ses recherches ont joué aux partisans de la virilité guerrière. Alors imaginez, ces recherches ont fait voler en fait en éclats l'idée selon laquelle seuls les hommes pouvaient prendre place dans les rangs de fiers guerriers vikings. On sait qu'ils sont forts, robustes, agressifs. Et bien sûr, il y a toujours les mythes nordiques un peu mystérieux qui évoquent les femmes armées d'un bouclier qui accompagnaient l'âme des guerriers morts au combat. Mais il n'y a plus que ça. Aucune preuve archéologique n'a pu être apportée jusqu'à ce que la chercheure et ses collègues analysent l'ADN des ossements d'une personne et là aussi analysé le mobilier funéraire qu'il y avait dans une tombe du 10e siècle. Alors, je vous raconte un peu l'histoire de cette recherche. En fait, tout a commencé par un projet qui s'appelle Atlas. Alors, ce projet, qui est toujours en cours, vise à effectuer l'analyse génétique de tous les squelettes datant de l'âge de fer scandinave. Cette période se situe entre 400 et 800 de notre ère. Et tout ça a été mis au jour en Suède. Alors, la spécialiste, notre archéologue, s'est surtout intéressée au site de Birka, qui est une petite île qui se situe à 30 km à l'ouest de Stockholm. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que c'est la première ville érigée par les Vikings vers 750. Et surtout, c'est qu'elle comporte une nécropole. Alors, tous les archéologues, en fait, s'y intéressent. Il y a 3000 tombes, témoignant donc en plus de trois types d'inhumations, de crémation, des inhumations en pleine terre et surtout des enterrements dans une chambre funéraire constituée d'un coffrage en bois dans lequel le corps reposait entouré d'une grande quantité d'offrandes. Et c'est à ce type de tombe-là qu'on va s'intéresser. Alors, il y a un inventaire de ces tombes qui a été fait dans les années 1970. Et dans une de ces tombes, il y avait une étiquette « femme » qui avait été apposée. Alors, notre chercheur, pour un peu déjouer les conceptions un peu machistes qui disaient « ben non, on ne peut pas avoir des femmes guerrières », a fait une analyse encore plus approfondie de l'ADN. Je vous épargne les détails techniques, mais ces deux approches plus profondes pour déterminer le sexe. Alors, résultat, absence du chromosome Y. Alors, sans contestation possible, il s'agit bien d'une femme. À la suite de ça, on a examiné le mobilier funéraire associé au squelette. Ils ont eu vraiment un choc. Chaque objet était directement lié à la guerre. Alors, des lances, des épées, des flèches, un couteau, un carquois, deux chevaux et leur harnachement. Et en plus, fait vraiment intéressant, la tombe comportait un jeu d'échecs.
Ah bon?
Alors, il faut savoir que chez les Vikings, le jeu d'échecs était extrêmement important. On a même retrouvé le corps dans le squelette, le crâne d'un Viking, un roi dans sa bouche, en fait, à l'intérieur de la cavité de la bouche. Donc, tous ces résultats confirment qu'il s'agissait d'une stratège importante et respectée. En fait, c'est une femme qui était âgée d'environ 30 ans, qui mesurait 1,70 m et qui était probablement originaire de la Suède. Est-ce qu'elle est morte au combat? On ne peut pas le dire. Mais plus personne ne pourra désormais affirmer qu'il n'y avait pas de femme avec des armes ou aux commandes d'une flotte viking. Alors, la légende voulant que ce n'était que des hommes, ben, c'est vraiment terminé. Alors, c'était un article de Bernadette Arnault pour Science et Avenir de juillet 2018. Alors Francis, après les terres rares, maintenant on parle de santé et des défis que cela pose pour le 21e siècle.
Oui, des terres rares aux terreux.
Oui.
On va parler des défis du 21e siècle en santé. Et l'article est publié dans UDM Nouvelles et il rapporte les propos de Régent Hébert, qui est professeur et doyen de l'École de santé publique. Évidemment, il parle du vieillissement de la population qui implique une transformation en profondeur du système de santé. Le Québec vit actuellement un changement démographique majeur, à savoir que la population de plus de 65 ans atteindra 25 % en 2031. Commentaire éditorial, c'était quand même prévisible.
Mmh, ben oui.
On continue.
OK. Alors, notre système public et universel, implanté dans la seconde moitié du 20e siècle, l'a été pour une population jeune et il a été bâti autour d'hôpitaux et de médecins. Ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, les maladies chroniques ont maintenant remplacé les maladies aiguës comme cause principale de mortalité et de morbidité. La morbidité, c'est quand on est malade. Mmh. La bonne nouvelle, c'est que la grande majorité de ces maladies peuvent être prévenues par des actions sur les déterminants de la santé. Comme par exemple, le principal déterminant de la santé, ce sont les iniquités sociales.
Mm-hmm. Ben oui.
Or, elles sont en croissance. La dernière étude de Thomas Piketty prouve qu'au Canada, particulièrement, l'écart de richesse est le plus important. La croissance a été la plus importante. Voilà. Donc, le traitement et le suivi des maladies chroniques se fait principalement en première ligne. Et les services de santé, présentement centrés sur l'hôpital, ne sont plus adaptés à cette réalité. Par exemple, nous consacrons 14 % des dépenses publiques en santé en soins de longue durée à domicile. Le financement est majoritairement attribué à l'hébergement en centre d'hébergement de soins de longue durée, CHSLD, contrairement à beaucoup d'autres pays. Par exemple, au Danemark, ce n'est pas 14 % des soins de santé, du budget de la santé qui est consacré aux soins à domicile, mais 73
%. Oh mon Dieu, quel écart!
Oui. Et petit commentaire éditorial, soit dit en passant, rappelons-nous du ministre Rochon qui nous avait promis un virage ambulatoire.
Oui.
Mais ça a l'air que le virage s'est fait, mais l'ambulatoire...
C'est lui qui l'a fait, le virage ambulatoire.
Oui, je pense qu'il a dérapé
un peu.
Il
est parti.
Exactement. Donc, bref, rien ne va plus et le système n'est pas construit pour régler les problèmes, ne s'oriente pas pour régler les problèmes. Ce n'est pas avec plus de cliniques que ça se passe, c'est pas comme ça. C'est une question de prévention. Donc, prévention, on dit alimentation, on dit exercice, on dit implication sociale aussi des personnes âgées.
Oui.
Pour qu'il y ait une justification à leur vie. Alors voilà, c'était donc les propos commentés de M. Régent Hébert, qui est professeur et doyen d'École de santé publique, tel que rapporté dans UDM Nouvelles le 10 septembre dernier.
Merci beaucoup.
Sois au sommeur, au pays des fleurs de la France. Les oiseaux se meurent, qu'en est-il de la chance? Les oiseaux se meurent par le coup de la lance. Les oiseaux se meurent, qu'en est-il de la chance? Qu'en est-il de la chance? Des jours ensoleillés, des amours de vacances pour les cœurs abîmés. Qu'en est-il de la chance? L'aurait-on oublié quelque part par méfiance, par mauvaise volonté? monde se meurt au pays des fleurs de la transe. Les oiseaux se meurent, qu'en est-il de la chance?
Pierre Lapointe, qu'en est-il de la chance?
Merci Maurice. Marie, on a une petite brève.
Oui, je vous raconte l'histoire de Denise qui accueille son fils Nicolas qui rentre de sa première journée d'école. Alors elle lui demande « Alors, est-ce que tu es content? » Il répond « Non, je suis pas content. »« Ah non, pourquoi? » »« Ben parce que je suis allé à l'école tout l'après-midi puis je sais même pas lire. »
Oh là là, il est ambitieux.
Courage, Nicolas.
Courage. Alors, j'espère que vous allez rester avec nous. Après la pause, nous poursuivons les Voix de service magazine avec, j'espère, des articles qui vous passionneront. Alors, chers auditeurs, nous voilà revenus pour la seconde partie. Et Marie, de quel sujet allez-vous nous parler en deuxième partie?
Moi, je vous parle d'écriture manuscrite.
Oui.
Dans une ère techno, c'est toujours, on se questionne. Et oui. Je vous parle de l'importance de la phonétique dans l'apprentissage de la lecture.
D'accord. Et de votre côté, Francis?
Moi, je vous parle d'agressivité.
Mais de soir.
De soir.
C'est ça. Et moi, je vais poursuivre, en fait, avec une analyse... des travailleurs, travailleuses plutôt, de nuit, qui seraient peut-être plus fréquemment atteintes du cancer du sein.
Ah.
Oui. Alors voilà pour cette deuxième partie.
D'accord.
Marie?
Oui, alors j'ai trouvé ce prochain article sur le site de Radio-Canada, Colombie-Britannique, Yukon. Puis ça m'a intéressée parce que la place de l'écriture manuscrite, ça me touche tout le temps. Ça touche beaucoup d'enseignants. C'est toujours une grande question. Alors, je vous présente ce...
Puis on aime toujours écrire, en
et
fait.
Et hein? Nous, on aime toujours écrire. Mais la question, c'est...
Bon,
Est-ce qu'il faut commencer par apprendre ça?
Oui.
Et dans quel sens? Donc, la pertinence de l'apprentissage de l'écriture manuscrite à l'ère techno. Le monde de l'éducation au Canada fait face à l'omniprésence de la technologie, on le sait, puis pas juste au Canada, partout. Et ça remet en question la pertinence de l'apprentissage de l'écriture manuscrite script, donc en lettres détachées, et cursive, en lettres attachées. Alors que les enfants forment souvent leurs premières lettres à l'aide d'un clavier de plus en plus. Des chercheurs soutiennent que la disparition de l'écriture à la main pourrait avoir un effet négatif sur le cerveau et les fonctions cognitives. Les tablettes sont présentes depuis plusieurs années au Conseil scolaire francophone de Colombie-Britannique. Bon, c'est spécifique parce que l'auteur est en Colombie-Britannique. Mais la direction a observé une tendance inquiétante résultant de son utilisation. On voit des enfants qui ont une motricité fine qui se développe beaucoup plus lentement. D'autres tendances se dessinent ailleurs dans le monde. Des écoles américaines ont décidé en 2015 d'abolir l'apprentissage de l'écriture en lettres attachées au primaire, favorisant les lettres détachées, plus proches des lettres d'un clavier. Et dans certaines écoles suédoises, les enfants de la maternelle apprennent à utiliser l'écran tactile avant de savoir tracer des lettres à la main. En général, les enfants du préscolaire qui n'ont pas appris à écrire à la main mettent plus de temps à apprendre les lettres, soutient la chercheuse américaine Karen James, qui est professeure à l'Université de l'Indiana. Avec des collègues, elle a réalisé une étude en 2012 auprès d'enfants de 4 et 5 ans qui commençaient à apprendre leur alphabet. Ils ont comparé l'activité cérébrale des enfants avant et après l'apprentissage des lettres avec trois méthodes. L'apprentissage visuel, l'apprentissage tactile et l'apprentissage manuel. Il n'y avait aucun changement à la suite de l'apprentissage visuel, un changement minime après avoir appris à l'aide d'un clavier et un changement important à l'activité cérébrale lors de l'apprentissage de l'écriture manuscrite. Selon la chercheure, des recherches ont montré au fil des ans que les enfants qui utilisent leurs mains pendant leur apprentissage apprennent mieux et que c'est la même chose pour les adultes. Plus le processus d'apprentissage est interactif avec le corps de l'enfant et sa motricité, mieux c'est pour son développement. En fait, c'est la conclusion. La tradition au Canada veut que les enfants apprennent à écrire d'abord en lettres détachées, puis passent à l'apprentissage de la cursive en deuxième ou en troisième année, bien qu'il n'y ait pas de prescription précise de la part de notre ministère de l'Éducation, puis c'est la même chose dans d'autres provinces. Des traditions d'enseignement qui n'ont pas été remises en cause pendant longtemps, et c'est Isabelle Montesino-Gelet, qui est professeure au département de didactique de l'Université de Montréal, et elle est auteure aussi d'une recherche très, très importante sur l'impact de l'acquisition des habiletés graphomotrices sur l'apprentissage. Leurs résultats ont montré que le pire des cas de figure pour le développement des enfants, c'est le double enseignement. C'est ce qu'on fait depuis des années. Ça les freine. On a pu le confirmer empiriquement.
Ah, oui.
La condition la plus favorable à leur développement, c'est l'adoption, dès le départ, de l'écriture cursive en lettres attachées. C'est pas souhaitable de nuire à l'automatisation en enseignant successivement de manière très rapprochée aux enfants un style d'écriture et un autre parce qu'on les freine, croit la chercheuse. En fait, ils développent l'aisance. Mm-hmm. Puis là, dès qu'ils ont un petit peu d'aisance, pouf, on les amène ailleurs.
Ah, oui.
Et ça nuit à l'automatisation. L'apprentissage unique des lettres attachées marquerait des points en favorisant aussi la lecture. Le fait de développer l'écriture manuscrite amène le scripteur à développer des réseaux neuronaux dans la zone motrice et ces réseaux-là sont impliqués non seulement lorsqu'on écrit, mais pour reconnaître des lettres en lecture aussi. Alors, les chercheurs déplorent que les décideurs en éducation consultent peu la recherche. On le dira jamais assez.
Oui.
Ils sont unanimes sur le fait qu'en 2018, maintenant, mm-hmm. à l'heure du clavier et des textos, il faut maintenir l'écriture manuscrite qui a une incidence directe sur les facultés intellectuelles.
Et j'ajouterais, parce qu'on a fait des recherches aussi sur cette fonction motrice,
oui.
fine, si on veut devenir dentiste, il faut une oui. fonction motrice très, très fine. Alors, on va peut-être aussi oublier les dentistes.
Dentistes et chirurgiens.
Et chirurgiens voilà. aussi.
Puis on en a besoin de ces gens-là.
Oui, tout à
Alors,
fait.
Alors, c'est un texte de Geneviève Millard qu'on peut trouver sur le site de Radio-Canada et ça a été publié le 14 septembre.
Merci beaucoup, Marie. C'est fort pertinent. Alors, Francis, vous allez nous parler d'agressivité qui semble émerger le soir.
Effectivement. Alors, l'article est de Elena Sander
mm-hmm.
et il a été publié dans Science et Avenir de juin dernier. Ça s'intitule « Aux origines de l'agressivité vespérale
mm-hmm. ».
Donc, c'est des chercheurs qui ont identifié le mécanisme cérébral et les neurones qui rendent les gens agressifs en fin de journée. La recherche a été faite beaucoup en pensant aux gens qui souffrent d'Alzheimer, mais ça fonctionne aussi généralement. Lorsque le soleil se couche, la tension peut soudain monter et les comportements agressifs se multiplient. Ce phénomène vient d'être expliqué dans une étude publiée dans Nature Neuroscience, où 13 chercheurs de 9 universités internationales ont percé le mécanisme cérébral en jeu. Jusqu'ici, les spécialistes savaient empiriquement que la propension à adopter un comportement agressif variait selon les moments de la journée.
Mm-hmm.
Il suffit mm-hmm. d'observer la courbe des délits violents en fonction de l'heure où ils sont commis pour s'en convaincre. Donc, ça vaut pour tout le monde. Il y a plus de crimes le soir que le matin.
Oui, bien sûr. Mais la noirceur aidant. Peut-être. Excusez.
Peut-être. Alors, peut-être que l'hiver, les crimes arrivent plus tôt parce qu'il fait noir plus vite.
Ah oui, oui, c'est ça.
Voilà. Alors, donc, les comportements violents chez les humains ont tendance à se produire à la fin du cycle d'éveil.
Mm-hmm.
26 % des crimes et comportements délinquants sont imputés à des adultes surviennent entre 20h et minuit. Donc, l'horloge circadienne est étroitement liée à un centre de l'agression du cerveau. d'après certains chercheurs. Plus précisément, ces chercheurs ont révélé l'existence de neurones qui inhibent, là je vais vous éviter, mais qui inhibent les influx nerveux entre le NSC et le NVN. Bref, ça agit en bloquant les comportements agressifs et les pensées agressives. Et selon l'étude, ces neurones sont plus actifs, les inhibiteurs, le jour que la nuit. Et lorsqu'ils sont éteints, expérimentalement, on l'a fait chimiquement sur les souris, le comportement violent augmente systématiquement. Le cerveau humain possède ces mêmes groupes de cellules, souligne un chercheur. Et grâce à cette découverte, nous sommes maintenant en mesure de cibler par des médicaments ce circuit et les neurones qui rendent les gens agressifs en fin de journée. Mais soit dit en passant aussi, commentaire éditorial, ce comportement pourrait aussi être modifié non seulement par les médicaments, mais par l'activité physique, par l'écoute de la musique, par la méditation et la relaxation.
Mm-hmm, bien sûr.
Donc, c'était un article de Elena Sender, publié dans Science et Avenir, juin 2018.
Merci beaucoup.
Things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around, things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around, I keep my tears tight in my fist. For your city runs into my dreams. Darling, I look up at the sun. The rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be.
Jane nous chantait « All right ».
Merci beaucoup. Alors Marie, vous allez nous parler de l'importance de la phonétique en regard de l'apprentissage de la lecture.
Voilà. Et bien, puis j'explique, la phonétique, c'est ce qui est lié au son du langage. Mm-hmm. Par exemple, en français, on en a 36 mm-hmm. des phonèmes.
Oui.
Et ils sont représentés par des lettres ou des groupes de lettres. Par exemple, le son « ou
oui. »,
c'est formé par « o » et « u mm-hmm. », et ça, c'est un phonème.
Oui.
Voilà.
C'est pas un plaisir acceptable comme un phone éthique.
Pas tout à fait. Ça s'écrit pas de la même façon. Alors, j'ai trouvé ce texte-là sur le site RIRE, R-I-R-E, c'est le réseau d'informations sur la réussite éducative. Et on dit que, dans un article publié dans la revue « Researched », ça finit par ED en majuscule. Mm-hmm. Jennifer Buckingham, qui est chercheuse australienne spécialisée dans l'enseignement de la lecture, elle décrit l'importance de la phonétique dans l'apprentissage de la lecture et les raisons pour lesquelles il y a un débat qui existe encore à ce sujet-là. De nombreuses études scientifiques ont démontré qu'un programme scolaire qui comprend un enseignement explicite et systématique de la phonétique était plus efficace qu'un programme qui n'en comprend pas. Par exemple, la méthode appelée phonétique synthétique systématique, qui consiste à enseigner la correspondance lettre-son, mm-hmm. puis à progressivement complexifier le mélange des, ou les mélanges des sons, s'est avéré particulièrement efficace. Des recherches en sciences cognitives ont démontré que lire, c'est pas comme parler. Le cerveau humain n'est pas naturellement connecté de façon à ce qu'une exposition répétée à l'écriture permette d'apprendre à lire automatiquement. De là la frustration de Nicolas, oui. dont on parlait tout à l'heure. Une série de connexions neurologiques doit en effet se faire dans le cerveau afin qu'il puisse développer les connexions nécessaires lors de la lecture, de façon à pouvoir, par exemple, reconnaître les caractères, les sons et le sens, la signification des mots. Pour ce faire, certains enfants prennent plus de temps que d'autres, puis un après-midi, c'est pas assez. Malgré les études qui démontrent l'efficacité d'un enseignement systématique de la phonétique, il existe toujours un débat sur son rôle dans l'enseignement et dans l'apprentissage de la lecture. Et on, dans l'article, on nous présente 8 raisons qui explique pourquoi c'est encore présent dans le débat. Mm-hmm. C'est basé sur le contexte australien, mais ça peut expliquer bien des choses dans plusieurs pays aussi. Alors, première raison, plusieurs enseignants n'ont pas les connaissances nécessaires. En Australie, par exemple, 38 % des enseignants seulement peuvent décrire ce qu'est la conscience phonémique, qui est un grand prédicteur des habiletés en lecture. Je vous explique, la conscience phonologique, c'est un terme général qui correspond à l'habileté à identifier et à manipuler les mots dans une phrase et les parties d'un mot, les syllabes, les rimes, les phonèmes, etc. Et la conscience phonémique, c'est une partie de ça. C'est le plus haut niveau de la conscience phonologique. Ça correspond à l'habileté à identifier et à manipuler les phonèmes, donc les sons dont on parlait tout à l'heure. Alors, il y a 38 % seulement des enseignants qui peuvent décrire ça. C'est pas beaucoup, mm-hmm. honnêtement. Ensuite, la formation des enseignants ne comprend pas toujours des stratégies d'enseignement de la lecture scientifiquement reconnues. Ensuite, il y a des inconsistances au sein d'un même département et ça peut envoyer des messages contradictoires aux enseignants. Les politiques décisionnelles sont souvent prises par des ministères ou des exécutants qui n'ont pas une bonne compréhension de la recherche. Il y a peu de programmes d'alphabétisation qui sont soumis à des évaluations rigoureuses. Certaines théories sont préconisées, bien qu'elles aillent à l'encontre des preuves scientifiques. Il y a de la désinformation qui concerne les méthodes d'enseignement efficaces et l'investissement de grandes sommes d'argent dans des ressources finalement inefficaces rend les nouveaux changements problématiques. En dépit donc de ces problèmes, la situation s'améliore en Australie, ça vaut la peine de le dire. Par exemple, certains montants d'argent qui devaient être utilisés dans des programmes inefficaces pourront être transférés dans de nouveaux programmes. Mm-hmm. Et d'autre part, l'importance de la phonétique dans l'enseignement de la lecture est de plus en plus reconnue. Alors, l'Australie se trouve donc sur la bonne voie, et on espère que nous aussi, même s'il y a beaucoup de travail qui reste encore. C'est Anne-Marie Grondin et Nathalie Couzon qui ont signé ce texte-là qu'on peut trouver sur le site RIRE en septembre 2018.
Fort pertinent. Merci beaucoup, Marie. Merci. Alors, je vous reviens donc avec cet article premier qui a été rédigé par Martin Lassalle et pour U2M Nouvelles le 13 septembre 2018. Et cet article s'intitule « Le travail de nuit est associé à un risque plus élevé de cancer du sein chez les femmes ». En fait, c'est un titre qui est plus une phrase, mais enfin, qui en dit beaucoup. Alors, les femmes qui travaillent de nuit seraient donc plus à risque de souffrir d'un cancer du sein, particulièrement avant la ménopause et peut-être dans la période de préménopause. C'est le constat qui ressort d'une analyse d'études portant sur 13 000 femmes, et ce, de 5 pays, qui a été effectuée par une équipe de chercheurs dont fait partie Anne Grundy, qui est attachée de recherche au département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Alors, les 5 études ont été menées en Allemagne, en Australie, au Canada, en Espagne et en France. On a donc, dans ces 13 000 femmes, près de 6 100 femmes ayant reçu un diagnostic de cancer du sein et quelques 7 000 autres qui n'en étaient pas atteintes ont aussi participé. Donc, ces femmes devaient répondre à des questionnaires sur leur activité professionnelle et sur différents facteurs de risque liés au cancer du sein. En moyenne, les participantes étaient âgées de 55 à 59 ans et la proportion d'entre elles qui travaillaient de nuit, entre autres au Canada, était de 16,7% au moment de l'étude. Le risque de souffrir d'un cancer du sein s'accroît avec le nombre d'heures travaillées de nuit et le nombre d'années qu'une femme occupe en emploi de nuit. Et on constate que le risque, par ailleurs, s'estompe 2 ans après avoir cessé le travail de nuit. Pour une femme qui travaille au moins 3 heures entre minuit et 5 heures du matin, on a constaté par ces recherches que le risque associé au cancer du sein est de 12% plus élevé que pour une femme qui n'a jamais travaillé de nuit. Et ce risque lié à l'emploi de nuit passe à 26% pour les femmes en préménopause. Or, les travailleuses de nuit qui effectuent des quarts de travail de plus de 10 heures, vous pouvez imaginer, voient leur risque d'être atteint d'un cancer du sein grimper à 36%. Donc, plus on travaille longtemps, et pire ça va, quoi. Alors, on dit même qu'il est de 80% chez celles qui effectuent des quarts de nuit qui vont au-delà de 10 heures à raison de plus de 3 nuits par semaine. Enfin, les femmes qui travaillaient encore de nuit au moment de l'enquête avaient un risque du cancer du sein de 26% plus élevé comparativement à celles qui avaient cessé de travailler de nuit 2 ans plus tôt. Alors, l'analyse des 5 études n'a pas pris spécifiquement en compte les types d'emplois de nuit, mais au Canada, les femmes travaillaient dans le domaine surtout de la santé.
Ben oui.
Le risque associé donc au cancer du sein et au travail de nuit était similaire chez toutes les participantes. Il faut donc peut-être revoir les rotations quant au quart de travail. Et on explique donc le risque de cancer. Tout à l'heure, Francis, vous avez parlé du rythme circadien. Il y a une sécrétion en fait moindre de mélatonine si on travaille plus de nuit, et donc cette sécrétion de la mélatonine pourrait servir de prévention au cancer, protecteur en fait contre le cancer. Donc, comme je disais, il faudrait peut-être revoir les horaires de travail, la rotation, pour éviter que des femmes puissent soient obligées de faire de trop longues heures de nuit, surtout si elles sont plus susceptibles, si déjà elles ont une fragilité familiale, héréditaire, etc. C'était donc un article de Martin Lassalle pour U2M Nouvelles du 13 septembre 2018.
Pour faire court, on pourrait dire que le temps supplémentaire obligatoire dans le système de santé aurait des effets néfaste sur la santé des travailleurs travailleuses.
Oui, tout à fait. Oui. Raccourcit la vie, finalement.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo. Vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble là. Après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Maintenant, dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages, je les ai vus, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout peint, ils sont morts. Le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux.
Henri Salvador, le travail, c'est la santé.
Ah, ben ça nous fait du bien tout ça. Marie, une petite brève importante, je pense,
oui,
avant les élections.
Tout à fait. En fait, lundi, c'est oui, jour officiel d'élection au Québec. Et les petits bureaux de vote du programme Électeurs en herbe offrent la possibilité aux enfants qui accompagnent leurs parents de s'initier au processus électoral en votant eux aussi. Ces petits bureaux de vote s'adressent tout particulièrement aux enfants de 3 à 12 ans, mais ils sont aussi ouverts à tous les jeunes de moins de 18 ans qui veulent s'initier au processus électoral. Alors, c'est lundi, le 1er octobre, de 9h30 à 20h. Alors, l'enfant accompagne son parent, il passe au petit bureau, il reçoit un bulletin de vote, il y a une question liée aux valeurs démocratiques, et il remplit son bulletin de vote, il vote, il dépose dans la petite urne, et il reçoit un autocollant à son arrivée et un tatouage après avoir voté.
Wow!
Wow!
Peut-être qu'on pourrait faire ça avec les adultes
oui,
aussi,
ça serait plaisant,
pour les inciter à aller voter.
Oui.
Est-ce que le tatouage est en relation avec le
Aucune
parti?
Idée, Francis! Alors moi, je vous amène sur le côté archéologie. C'est un petit peu moins terre-à-terre. Hein. Alors, connaissez-vous Lourdes Inca?
Non.
Non? Eh bien, peut-être que vous n'avez pas lu Tintin et le Temple du Soleil.
Oui.
Ah ben c'est à Pachacamac.
Oh, oui.
Ah, oui, oui. Un célèbre lieu de pèlerinage, oui. Inca. Eh bien, on y a trouvé une momie vieille de 1000 ans. Et elle est encore dans son emballage. Ça veut dire qu'elle est très, très bien préservée, n'est-ce pas?
Oui.
Et on pourrait découvrir bien des choses en analysant
peut-être
tout ça.
Peut-être est-ce une femme?
Ah, peut-être est-ce une femme.
Si elle est encore emballée, oui, elle est peut-être sous garantie.
Ah, peut-être. Un petit mot d'enfant, Marie?
Oui, Jésus, selon Isoline, qui a 5 ans et demi, il est né en 0 et c'est grâce à lui que le temps a commencé.
Oh, wow! C'est trop génial. Oui. Alors voilà, c'est le temps de vous laisser. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à Marie Lalande. Merci à Francis Marin pour leur choix d'article. Merci beaucoup à Maurice Bolduc pour la mise en onde et ses beaux choix musicaux. Et bonne semaine. Au plaisir.
Au revoir.
Au revoir.